Chemin de vie. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité à notre rubrique Chemin de vie. Nous avons la joie de vous faire écouter Chemin de vie chaque semaine, du lundi au vendredi, sur votre radio à cette même heure.
Notre équipe, toujours fidèle, est présente. Daniel à la technique, Heidi et Jean au micro, ainsi que Jacques Hosty, notre narrateur. Je te laisse la parole, Heidi, pour nous annoncer la couleur.
Elle est plutôt radieuse, Jean. Pour notre cher Salomon, sa bien-aimée, la Sulamite, scintille comme des colliers de perles d'or et d'argent. Et sa beauté est semblable à un bouquet de myrrhe.
Quelle belle métaphore, Heidi. Mais vite, partageons ensemble cette histoire après ce chant intitulé « Et si par hasard ?» que nous interprète le groupe Rencontre.
Et si par hasard tu voulais pleurer, pleure à grands cris, à chaudes larmes. Et si par hasard tu voulais crier, crier à pleine voix, ne te retiens pas, mais crie vers celui qui seul te connaît si suffisamment pour te relever. Lui qui peut donner un baume à ta vie, lui seul te permet de tout espérer. Et si par regret tu voulais partir comme pour en finir, fuir à tout jamais. Et si par malheur tu voulais cesser de vivre ici-bas, alors retiens-toi et crois qu'il est là, il est avec toi, il essuie tes larmes, il pleure avec toi. Il entend ta voix, il perçoit tes cris, son cœur bat pour toi, il bat pour ta vie. Et crois en celui qu'il t'a
Une chose qu'un homme remarque chez une femme, ce sont ses cheveux. D'ailleurs, il y a toute une industrie qui s'est greffée dessus. Si vous allez dans un salon spécialisé, vous pouvez vraiment changer votre apparence en faisant ajouter à vos cheveux naturels des mèches supplémentaires. Il y a 3-4 ans de cela, à Paris, 150 extensions coûtaient environ 900 euros. Mais savez-vous d'où viennent ces cheveux? Eh bien, à Bangalore, une des plus grandes villes dans le sud de l'Inde, se trouve un immense temple où transitent environ 20 millions de pèlerins par an. Les femmes sont encouragées à montrer leur dévotion aux divinités hindoues en leur offrant leurs cheveux. C'est ainsi que 700 barbiers en récoltent 200 tonnes par an. Ensuite, ils sont lavés, traités et travaillés dans de nombreux ateliers avant d'être acheminés dans les pays riches où le narcissisme règne suprême. C'est une entreprise installée à Rome et qui s'appelle Great Length qui détient 80% de ce marché extrêmement lucratif puisque la matière première est gratuite. Comme je l'ai dit, pour une femme, les cheveux sont très importants. La preuve est qu'on appelle certaines boucles des accroche-cœurs. Dans le Cantique des Cantiques, la première fois que Salomon admire la Sulamite, il lui dit « Tes joues sont belles entre les chaînettes ». C'est ainsi qu'il désigne les torsades de cheveux qui caressent les joues de sa dulcinée. Ce sont justement ces boucles charmantes qui ont envoûté et accroché Salomon. Nous arrivons maintenant au quatrième cliché du paparazzi invisible qui suit de très près et avec grand intérêt l'aventure amoureuse entre Salomon et la Sulamite. « Oh, ma bien-aimée, je te trouve pareille à la jument parmi les chariots du pharaon. Tes joues sont belles entre les chaînettes, ton cou est beau dans tes colliers, nous te ferons des perles d'or. » tout incrusté de points d'argent. Premier chapitre, versets 9 à 11. Salomon admire la beauté de la Sulamite en disant « Ô ma bien-aimée, je te trouve pareille à la jument parmi les chariots du pharaon. » À l'époque de Salomon, les meilleurs chevaux et les chars de guerre les plus performants étaient originaires d'Égypte. Je lis le passage. Les chevaux du roi étaient importés d'Égypte par convoi. Une caravane de marchands du roi allait les acheter par convoi contre leur prix. Chaque char qu'ils importaient d'Égypte revenait à 600 pièces d'argent et chaque cheval à 150. Ces marchands en importaient dans les mêmes conditions pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Fin de citation. Les chariots égyptiens avait une réputation d'invincibilité. Après avoir fui l'Égypte, Moïse et le peuple hébreu se retrouvèrent face à la mer Rouge. Comme ils étaient dans un cul-de-sac avec des montagnes sur les côtés et l'armée du pharaon qui les talonnait par derrière, ils ont vite réalisé qu'ils étaient faits comme des rats. Toute la cavalerie égyptienne avec ses chariots et ses bannières qui flottaient au vent était un spectacle étincelant et fascinant à la fois. Comme devant une armée en campagne, Salomon est ébloui par sa bien-aimée. Dans la poésie arabe antique, les belles femmes étaient parfois regardées comme des étalons, de très beaux coursiers, agiles, rapides, gracieux et élancés. Avec leurs crinières flottantes, richement décorées, les chevaux qui conduisait le char du pharaon était magnifique. Mais Salomon compare sa bien-aimée à la jument parmi tous les purs sangs de tous les chariots du pharaon, c'est-à-dire qu'elle est plus belle que tous les plus beaux étalons et unique comme s'il n'existait qu'elle. Le compliment de Salomon est très subtil, ce qui s'explique par le fait qu'il était particulièrement agile avec les mots et que le texte est poétique. Après avoir comparé sa bien-aimée à une jument inégalable, Salomon commence à louer certaines parties de son corps, disant « Tes joues sont belles entre les chaînettes, ton cou est beau dans tes colliers ». C'est la première fois qu'il est aussi spécifique, mais il fera encore 10 descriptions semblables. Les chaînettes étaient un ornement composé d'une série de petites plaques de métal qui étaient attachées à la crinière des chevaux. Salomon désigne ainsi les torsades de cheveux en accroche-cœur qui tournoient sur les joues de sa bien-aimée. Le cou et les cheveux sont les tout premiers attraits qu'un homme remarque quand il a un intérêt romantique pour une femme. La beauté naturelle de la Sulamite est encore rehaussée par le fait que maintenant, son joli cou est entouré d'une rivière de perles que Salomon lui a sans doute donnée, et pour faire bon poids, bonne mesure, les dames de cour vont lui fabriquer des bijoux. La Sulamite était bergère et habituée aux travaux des champs et de la vigne. Alors, se retrouver au milieu des dames de cour était pour elle une expérience éprouvante. Salomon sait très bien que sa bien-aimée est, dans son palais, aussi mal à l'aise qu'un poisson hors de l'eau. Il est sensible à ce qu'elle ressent et donc au fait qu'elle a besoin de l'entendre vanter publiquement sa beauté. Au fur et à mesure que le roi affirme son amour pour sa jeune bergère, les dames de cour se montrent de plus en plus chaleureuses envers elle. C'est un volte-face de leur part, car au tout début, elles ont presque montré du dédain à son égard. En effet, quand, dans son monologue, la Sulamite demande « Ô toi que mon cœur aime, dis-moi où tu fais paître ton troupeau de brebis », elles lui ont répondu sur un ton quelque peu sarcastique « Si tu ne le sais pas, ô toi la plus belle des femmes, va donc suivre les traces du troupeau de brebis ». Mais maintenant qu'elles ont constaté que le roi n'avait Dieu que pour elle, les dames de cour font tout leur possible pour la mettre à l'aise et même se rendre utile puisqu'elles se proposent de lui fabriquer des bijoux quand elles lui disent « Nous te ferons des perles d'or tout incrustées de points d'argent ». Selon l'interprétation typologique du texte, Salomon représente Dieu le Père ou le Fils et la Sulamite, Israël ou l'Église. Épouse du Christ. Dans le récit du Cantique, la jeune bergère était dotée d'une beauté naturelle extraordinaire qui a contribué à séduire Salomon. Par contre, nous autres, croyants ou pas, nous ne possédons absolument rien de séduisant, même chose pour Israël. Quand l'Éternel a décidé de venir au secours des Hébreux qui étaient en esclavage, il n'a pas dit « Je vais vous délivrer parce que vous êtes un peuple supérieur aux Égyptiens et parce que vous m'avez été parfaitement fidèle ». En réalité, les Israélites n'avaient rien de plus que les autres et ils étaient devenus idolâtres, adorant les mêmes faux dieux que les Égyptiens. Alors pourquoi Dieu est-il intervenu en leur faveur? Il l'explique à Moïse disant « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. » Fin de citation. Ce fut un acte de miséricorde et de fidélité de la part de l'Éternel. Il avait en effet juré en son nom à Abraham, Isaac et Jacob qu'il ferait de leurs descendants une nation nombreuse. Je lis le passage. « Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous, mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. » Fin de citation. Si quelqu'un tient ses promesses, c'est bien Dieu. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, on peut être sûr qu'éventuellement il le fera. Comme l'Éternel a exercé sa miséricorde envers les Hébreux, il a eu pitié de l'humanité et c'est ce qui l'a motivé à envoyer son Fils sur terre pour nous racheter de nos fautes. Il est suffisant mais nécessaire pour tout être humain de placer sa confiance en Jésus seul afin d'être sauvé et ainsi obtenir la vie éternelle. C'est tout ce que Dieu demande. La Sulamite était naturellement jolie comme un cœur, mais en plus elle allait être couverte de bijoux, des perles d'or toutes incrustées de points d'argent, dans le but de rehausser encore davantage sa beauté. Cette image s'applique aussi à l'Église, la future épouse du Christ. À la fin des temps aura lieu les noces de l'agneau dont j'ai déjà parlé. Alors le Seigneur Jésus présentera à lui-même tous les croyants de tous les temps réunis ensemble dans ce qui est l'Église universelle, et elle sera alors rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Je continue dans le premier chapitre du plus beau des chants avec le cinquième cliché qu'a pris notre paparazzi, invisible. Il s'agit d'une expérience que la Sulamite a vécue au palais et dont elle se souvient distinctement. Salomon est assis en compagnie de ses conseillers et ensemble ils discutent d'affaires d'État, tandis que les courtisanes commentent les dernières rumeurs de couloir. Mais pour la Sulamite, tous ces bruits de fond sont imperceptibles, même les décorations magnifiques du palais s'estompent et les gens qui vont et viennent disparaissent. Tout s'efface pour faire place à un seul personnage, l'élu de son cœur. Alors qu'elle le contemple, elle sourit affectueusement et décrit ses sentiments. Tandis que le roi est assis à sa table ronde, mon art exhale son parfum, car mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe entre mes seins. Il passera la nuit. Oui, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de henné des vignes d'En-Gedi. Versets 12 à 14. La table de Salomon n'était pas insignifiante, surtout vers la fin de son règne, car elle voyait passer une quantité astronomique de victuailles. Ce roi faisait les choses en très très grand. Je lis un texte. Chaque jour, Salomon recevait pour son entretien et celui de tout son personnel 9 tonnes de farine fine et 18 tonnes de farine ordinaire, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles, les chevreuils et les volailles engraissées. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leurs tenues, ceux qui servaient à manger et à boire, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle. Fin de citation. Avec l'âge et les déceptions de la vie, Salomon fut frappé par la folie des grandeurs, ce qui d'ailleurs contribua, après sa mort, au schisme de la nation d'Israël. Mais lorsqu'il a connu la Sulamite, il n'en était pas encore là. Le nard est une plante aromatique originaire de l'Inde. La racine, broyée et mise en sachet, servait à parfumer les lits, les vêtements et les linges. Les femmes en portaient aussi autour du cou sur la poitrine afin de baigner constamment dans son arôme et de le répandre autour d'elles. La myrrhe est également une plante aromatique, on en tire un parfum qui est très onéreux. La côte ouest de la mer Morte est un affreux désert monotone où rien ne pousse sur des kilomètres et voilà que tout à coup surgit l'oasis d'En-Gedi, à la végétation luxuriante et où pousse la vigne, le henné et toutes sortes de plantes aromatiques. Cette plante porte des fleurs blanches odoriférantes. Cette oasis est un refuge bienvenu pour tous ceux qui voyagent dans le désert. Le point focal de ce cinquième cliché est tout ce que Salomon représente pour la Sulamite. L'élu de son cœur est comme une oasis où elle peut se rafraîchir et l'amour de son bien-aimé est comparable à l'arôme doux du henné. À ses yeux et à ses pensées, il est semblable à la fragrance des parfums les plus précieux. Ce sachet odoriférant représente son bien-aimé. Il est toujours près de son cœur et le sentiment de son amour l'embaume continuellement, surtout la nuit, qui dans le cantique symbolise l'absence du bien-aimé. Dans les moments difficiles de la vie, et on sait qu'ils viendront, c'est vers Jésus que nous devons nous tourner et c'est lui qui doit faire l'objet de notre méditation. La nuit, quand les soucis me ravissent le sommeil, ce n'est pas en essayant de me raisonner que j'améliore les choses. Au contraire, je m'emballe. Ce qu'il me faut, c'est un antidote apaisant. L'apôtre Paul écrit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Fin de citation. Selon l'interprétation typologique, le sachet de myrrhe et le nard du cantique représentent Jésus-Christ, car pendant sa vie terrestre, ses parfums lui furent associés au moins à 3 reprises. Quand les rois mages vinrent pour l'adorer, 6 jours avant sa mort et lorsqu'il fut embaumé avant d'être mis au tombeau. Je résume ces passages. Des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 6 jours avant la Pâque, comme Jésus était à Béthanie, on prépara un festin en son honneur. Pendant le repas, Marie prit alors 1 demi-litre de nard pur, un parfum de grande valeur. Elle s'approcha de lui, cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle le répandit aussi sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Fin de citation. Comme les disciples et surtout Judas s'indignaient de ce qu'ils appelaient un gaspillage, Jésus leur a dit « Laissez-la donc tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action, elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer ma sépulture. » Après ces événements, Joseph alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Nicodème vint également. Il apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire en y mettant des aromates selon les usages funéraires des Juifs. Fin de citation. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul compare la bonne nouvelle de Jésus-Christ à un parfum. Je résume aussi ce verset. « Grâce soit à Dieu qui par nous répand en tout lieu le parfum de la connaissance de Jésus-Christ. » Fin de citation. Le bouquet de henné des vignes d'En-Gedi rappelle la personne du Christ parce qu'il est le parfum de l'univers, car c'est de lui et seulement de lui qu'exhume la vie éternelle. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Fin de citation. Le Père a toujours été totalement satisfait de son Fils. Il l'a dit et l'a prouvé en le ressuscitant des morts. Quand Jésus était parmi nous, il émanait la douce fragrance aromatique de la pureté morale. En effet, selon le Nouveau Testament, il a subi les mêmes tentations que le commun des mortels, mais sans jamais commettre la moindre faute. Dans l'Ancien Testament, une des offrandes que les Israélites faisaient à l'Éternel consistait à de la pâte de farine qui devait être parfaitement limpide sans aucun grumeau parce qu'elle était une image du Messie parfait qui viendrait. Je ne sais pas vous, mais moi, non seulement ma vie ne sent pas la rose, mais j'ai beaucoup de grains agglutinés, de débris visqueux et d'impuretés gluantes de toutes sortes. En fait, à l'état brut, vous et moi sommes moralement tordus. Un patriarche de l'Ancien Testament a dit « L'être humain est détestable et corrompu, il commet l'injustice comme il boirait de l'eau. » Fin de citation. Dégénéré et déréglé. C'est ce que nous sommes, et en plus défectueux quelque part. Je veux dire, un peu bizarre dans certains domaines de la vie et peut-être même maniaque. À ce propos, j'ai lu une blague où un homme dit à un autre « Nous avons tous nos dispositions particulières ». Mais ce dernier réplique « Toi peut-être, mais pas moi ». Le premier répond « Ah bon ? Alors dis-moi, est-ce que tu remues ton café avec ta main droite ou ta gauche ?»« La droite ». Tu vois bien que tu es un excentrique, parce que la plupart des gens utilisent une cuillère. Selon les Écritures, Jésus est distinct de nous de multiples façons. Par exemple, il est le Fils unique de Dieu, le bon berger, le vrai cep, la lumière du monde, le sacrifice parfait, le chemin, la vérité et la vie. En lui réside aussi la justice, la sagesse, l'amour, la miséricorde, la majesté, la puissance, la souveraineté, l'humilité, la patience, la foi, le zèle, le courage, la sainteté et toute grâce. Le croyant qui se laisse conduire par lui manifestera toutes ses qualités et d'autres encore.
Invincible amour de Stephen Rich. Pour nous, il est déjà le temps de prendre congé de vous, amis auditeurs. Ceux parmi vous qui aimeraient nous contacter soit pour obtenir le texte de ce jour, soit simplement pour poser des questions, peuvent le faire en appelant le 0820 200 628. C'est un numéro indigo. 0820 200 628.
Si vous n'avez pas eu le temps de noter ce numéro, vous pourrez le retrouver sur notre site internet chemindevie.info, chemin au pluriel et le tout en un seul mot, chemindevie.info. Nous espérons vous retrouver demain, à la même heure. Au revoir à tous.
À demain.